Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça a bouleversé les acteurs aujourd'hui en place ? Parce que là, on a raisonné sur ces plateformes et leur évolution. Et on se questionne sur ce que la filière entière, je ne sais pas si le terme filière combien, en a fait, enfin, à quel point ça bouscule tout l'écosystème.
Merci. On va prendre plusieurs questions, oui.
Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis là. Absolument passionnant parce que je trouve que ces nouveaux, en tout cas ces nouvelles pratiques interrogent vraiment la façon de modeler les politiques publiques au niveau local. Et moi, je m'interroge justement sur la réaction des élus locaux face au développement de ces plateformes. Parce que je pense qu'on a deux types de réactions. On a celle de la ville de Paris. Et puis, on a les élus locaux qui vont se saisir justement du développement de ces plateformes comme une opportunité de développement et d'attraction touristique. J'en veux pour preuve le fait qu'à Bombay, développé un partenariat avec la MRF, l'Association des maires ruraux de France, est très actif justement pour le développement touristique des zones rurales. Alors, est-ce qu'il y a une opposition, en tout cas deux types de pratiques et d'appréhension de la problématique entre l'urbain et le rural ? C'est ma première question. Et peut-être un partage d'expérience d'étonnement. Je travaille chez France Urbaine, donc une association d'élus qui représente les grandes villes, grandes interco, communautés urbaines et métropoles. En ce moment, il y a un projet de loi en proximité dans lequel les sénateurs ont introduit une rigidification de la réglementation Airbnb. Ça a été largement assoupli par les députés en commission, mais très étonnamment, on n'est absolument pas saisi par nos élus, nos adhérents, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, je partage cet étonnement parce que c'est vrai que finalement, en phase 2, en tout cas dans le cadre de ce projet de loi, Airbnb n'avait personne, enfin, il n'y avait aucun, en tout cas venant des assos de collectivité, enfin, je parle sous le contrôle de Claire, je ne sais pas si à la DCF vous avez identifié des sujets là-dessus. En tout cas, chez France Urbaine, pas du tout. Et c'est quand même assez étonnant. Voilà. Alors, est-ce que ça va jouer essentiellement au niveau local, dans le cadre de la campagne municipale, peut-être ? Donc, c'est déconnecté un peu de nos enjeux. En tout cas, c'est assez intéressant de l'observer.
Alors, une ou deux questions assez ramassées, si vous voulez bien.
En fait, c'était exactement cette idée-là. Tout à l'heure, votre présentation, elle est très parisienne d'Île-de-France. Et ce sera intéressant, tu disais entre la France urbaine et rurale, mais ça peut être intéressant de voir dans la France, en France, outre Paris qui est vraiment, qui focalise et qui médiatiquement, évidemment, on en parle beaucoup, mais à quel degré les villes ou les métropoles commencent à trouver qu'Airbnb est un bon moteur pour développer le tourisme. Alors, est-ce que c'est à l'échelon urbain-rural ou est-ce que c'est en fonction de la taille des métropoles ou en lien avec ce qu'on a vu ce matin, des difficultés de certaines villes de désertification qui aurait plutôt tendance à vouloir plus de Airbnb. Et c'est vrai qu'il y a un effet, alors c'est un peu en parenthèse, il y a aussi un effet sur le monde de la location, c'est qu'il y a des gens qui avant mettaient des logements en location, et le secteur de la location actuellement est beaucoup plus serré, parce qu'il y a des gens qui préfèrent mettre en Airbnb, ça aère un peu plus le logement, et au fait qu'ils ne mettent plus en location leur logement, ce qui fait que ça fait aussi une concentration, et ça tend plus au marché de la location dans des villes. Le marché était déjà un peu serré. Enfin, c'est une parenthèse par rapport à l'analyse.
Bonjour, Charlotte Sorin, Bordeaux Métropole. Peut-être plus un témoignage, une réponse partielle aux remarques des collègues. Bordeaux a délibéré en 2017, en juillet 2017, justement, pour imposer sur la même ligne que Paris, imposer une compensation de 1 pour 1 en cas de location spéculative, entre guillemets, c'est-à-dire au-delà de 120 jours sur une résidence secondaire. Ça a été fait un peu en catastrophe parce que c'est devenu exponentiel ce phénomène. Une éviction massive des publics étudiants. On a une ville qui a une croissance parallèle, un effet ciseau, une croissance de la population estudiantine qui se cherche principalement des logements de petite taille en plein centre. C'est aussi la cible Airbnb classique. Donc il y a une vraie, collision des deux modèles. Les propriétaires sont très rapides à comprendre que ça va bien plus vite de rentabiliser un logement quelques jours, quelques semaines par an qu'avec du Airbnb, qu'avec du logement étudiant. Donc ça s'est fait très vite. La réglementation qui a été posée a permis de freiner le développement. On est autour de 10 000 logements Airbnb aujourd'hui à Bordeaux, mais on était sur une croissance à deux chiffres qui s'est stabilisée. Ce dispositif a permis de remettre sur le marché à peu près 600 logements dans le marché classique. Donc ça a été une première réponse, pas forcément idéale. Je pense que par rapport à ça, une fois de plus, les métropoles cristallisent la croissance. Je pense que, évidemment, sur des territoires plus ruraux, moins denses, ça peut être une vraie solution, mais peut-être pas forcément une solution touristique, mais plutôt une solution d'hébergement temporaire pour des salariés, pour des stagiaires, parce que c'est parfois très compliqué dans des zones non denses de trouver un logement pour des durées courtes. Et enfin, pour répondre à la concurrence hôtelière, elle est évidente sur les segments plutôt bas de gamme, une, deux étoiles, où on a constaté un recul des nuitées hôtelières sur ces tranches-là. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais de toute façon, on est entre 7 et 8 millions de visiteurs par an. Donc forcément, il faut les caser et on les concentre avec le phénomène Airbnb en centre-ville. On concentre des déchets le week-end, donc le dimanche soir, en général, les Bordelais n'en peuvent plus de voir les poubelles qui débordent parce que les services de voirie ne peuvent pas passer tout le week-end pour ramasser les bouteilles. Ils n'en peuvent plus d'avoir des écoles qui ferment parce qu'il n'y a plus de logements pour les familles. Enfin voilà, c'est un peu tous ces effets négatifs induits qui ressortent très clairement. Les élus s'en sont emparés parce qu'ils ont été très, très vite alertés par les habitants. Je ne sais pas si ça répond pour partie aux questions que certains se posent. Je ne sais pas avoir été trop long.
Merci beaucoup pour vos questions et puis pour la réponse. Merci, l'industrie qui permet de sortir de Paris. Alors, ce sont de très bonnes questions sur lesquelles certaines réponses apparaissent, avec des données qui permettent de prouver ça, et d'autres sur lesquelles on a des intuitions, mais c'est encore un peu tôt parfois pour y répondre complètement. Peut-être sur la première question, sur votre question sur le sur hôtel et les effets sur l'industrie de la filière hôtelière, ça dépend comment on voit les choses, et le marché locatif, ou même le marché du logement dans son ensemble. Premier élément de réponse, nous quand on a commencé à travailler sur ces questions-là, c'était difficile d'avoir des données, et c'est encore difficile d'avoir à la fois des données et du recul pour pouvoir dire, prouver avec une forme de causalité, c'est le développement de ces plateformes qui provoque, par exemple, la baisse de nuitée dans les hôtels, ou qui provoque l'augmentation du prix du loyer ou du prix d'achat du mètre carré. Les prix d'achat et de loyer à Paris n'ont pas attendu Airbnb pour augmenter de façon délirante. Bon. La question, c'est est-ce que, la réponse mesurée, c'est ces plateformes et Airbnb, c'est un facteur parmi d'autres qui provoque ce genre de croissance et d'externalité négative, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Sur l'industrie, sur la filière hôtelière, comme tout à l'heure, il y avait une remarque sur les bailleurs sociaux sont très divers. Le monde HLM, c'est un peu la même chose, et donc vous avez répondu, il me semble, sur le fait que tous les acteurs hôteliers ne sont pas confrontés à des problèmes. Donc les hôtels, disons, bas de gamme, ça n'a rien de péjoratif, hein, sur jusqu'à 2-3 étoiles, sont en concurrence plus importante que des hôtels haut de gamme, avec beaucoup plus d'étoiles. Et on le voit en fait dans les mobilisations du lobby hôtelier. Les gros acteurs hôteliers type Accor, on ne les entend pas trop. À se demander même s'ils n'investissent pas dans Airbnb pour lancer le coup d'après, ce qui est fort probable. Alors que moi je travaille en ce moment en Bretagne avec des acteurs, j'étudie avec eux le phénomène, ils sont confrontés visiblement dans certaines villes, et c'est pas sans lien avec votre question, sur des villes côtières ou rurales ou d'un autre type de tourisme que celui de Paris, et qui sont confrontés de plein fouet à une concurrence Airbnb. Et quand bien même ces acteurs-là, il est quand même un petit peu difficile de prouver de façon absolument certaine que c'est Airbnb qui provoque le fait qu'il y a moins de réservations. Alors, certainement, de façon intuitive, oui, mais pour l'instant, j'ai vu aucune étude le prouver. Certains ont essayé, notamment aux États-Unis, j'ai en tête des papiers, des articles de géographes, qui ont essayé de réfléchir, de regarder sur les 5 dernières années, puisque c'est des papiers qui datent, c'est peu significatif. Si vous allez dans certaines villes balnéaires, côtières, c'est de toute façon, les hôtels sont complètement pleins en haute saison et en basse saison, un peu moins que d'habitude, et encore, certains responsables hôteliers achètent des appartements Airbnb ou même des chambres Airbnb. Donc, voilà. Mais il y a certainement des effets de concurrence, et effectivement, on peut imaginer des formes de corrélation. Maintenant, si on prend Bordeaux aussi, on peut s'interroger sur l'effet TGV. C'est-à-dire, est-ce que, là aussi, sur l'effet TGV et dans une rotonde sur laquelle je travaille, lorsque vous vous rapprochez considérablement de Paris, on peut imaginer deux effets, beaucoup plus de touristes qu'auparavant, premier effet. Deuxième effet, des Parisiens qui viennent, de jeunes Parisiens qui viennent résider dans cette ville, que ce soit Bordeaux, Rennes ou un petit peu plus loin, qui peuvent travailler sur Paris mais vivre sur d'autres villes. Et l'autre effet aussi, c'est on peut se dire c'est tellement rapide qu'en fait on ne dort pas sur place, donc on va travailler. Et donc en fait, là aussi on peut imaginer que c'est l'un des effets, on ne réside pas en hôtel. Donc voilà, donc c'est aussi un facteur. Donc ma réponse est oui, évidemment, ce genre de plateforme produit de la concurrence et avec un certain type de résidence hôtelière, ça c'est sûr. Il y a les hôtels, mais il y a aussi les chambres d'hôtes, mais qui elles aussi mettent sur Airbnb, des types gîtes. Et d'autres types de meublés. Donc, bien entendu, mais ce n'est pas le seul facteur. Mais bien entendu, ça provoque un certain nombre d'effets sur l'hôtel. On le voit de toute façon, si vous voulez, à un niveau plus micro, je regarde très précisément ce qui se passe. D'ici quelques mois, j'espère pouvoir vous donner les chiffres, mais oui. Sur le marché du logement, là aussi, au début, c'est intuitivement évident. Sur le prix d'achat, on cite souvent des cas, vous avez des agents immobiliers qui, à l'achat, vous disent « Ah, mais de toute façon, on vous le vend plus cher, cet appartement, parce que de toute façon, vous pourrez le mettre sur Airbnb. » Oui, on a des cas comme ça, on a pu observer ça. Là aussi, c'est un facteur parmi d'autres, certainement, qui provoque ce genre d'inflation, en fait, une surinflation par rapport au marché actuel. Sur les locations, vous dites que ces formes de régulation permettent de re-rentrer pour des locations de résidence permanente, ou en tout cas au moins de 9 mois, notamment pour les publics que vous citez. De la même manière, bon, alors est-ce que ça produit une élévation directe des loyers dans les villes? Ça passerait par la question de l'achat, parce qu'en fait, la sous-location est interdite, il n'y en a pas beaucoup en réalité, donc là aussi, ça passerait par ça. Donc là aussi, j'attends les données définitives, mais oui, certainement qu'il y a un effet là-dessus. Je voulais ajouter sur les autres villes. Alors, et merci pour cette indication, donc sur le France urbain, effectivement, c'est assez intéressant. J'ai parlé de Paris, mais j'ai montré donc un certain nombre de villes qui, en France, ont pris des mesures. Alors, Paris a été le plus médiatisé, notamment parce que ça a été l'une des premières à se mobiliser sur cette question. Mais je le redis, c'était une mobilisation, dans les discours, mais qui était sur des dispositifs existants. Et les autres villes également, en fait, ont pu se saisir de règles existantes, notamment sur les locations meublées. Et si on regarde les procès-verbaux des conseils municipaux et de tous les arrêtés, Paris est mentionné comme Paris, nous faisons, ou alors à la différence de Paris, nous faisons. Donc effectivement, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, mais vous avez une vingtaine de villes en France qui aujourd'hui ont développé des formes de régulation qui commencent à être variées. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que c'est les mêmes règles juridiques qui sont interrogées. Donc Nice, Biarritz, etc. et d'autres villes qui ont commencé, qui ont pris des mesures tout aussi intéressantes que celles de Paris, voire beaucoup plus strictes, parce qu'en fait, Paris, encore une fois, n'a pas pris de mesures radicales, plus strictes. Donc il n'y a pas que Paris. Deuxième réponse. Il faut différencier effectivement des zones urbaines rurales et peut-être des zones, ce matin on parlait de villes en décroissance ou en déprise, où vous avez effectivement des maires et des élus locaux qui veulent attirer des visiteurs et donc qui veulent développer Airbnb, enfin qui veulent, et qui, donc vous citez ce partenariat, effectivement. Et de la même manière, vous avez cette réflexion, je cite ça, mais il y en a d'autres, à Palavas, dans le sud de la France, vous avez une croissance de population pendant l'été, mais en fait, en basse saison, vous avez des immeubles qui sont complètement vides. Et donc, des élus locaux cherchent à développer de l'activité, de la résidence. Et donc, là aussi, il y a du potentiel. Les stations de ski, c'est la même chose. Et donc là, il y a un potentiel assez important. Les élus locaux seraient très favorables au développement de ces plateformes. Donc effectivement, les effets externalités négatives ou positives sont pas du tout les mêmes, parfois croisés, contradictoires. Et donc là, c'est ce que j'ai dit en préambule, nous on travaillait sur les grandes villes, mais vous avez complètement raison, les enjeux sont différents. Alors ça ne veut pas dire que ça ne produit pas d'autres effets aussi, mais je pense voilà, s'orienter vers les élus locaux des zones rurales, c'est aussi un... Alors pourquoi les élus locaux s'en sont pas saisis? À mon avis, c'est parce qu'ils s'en sont saisis eux-mêmes, et encore une fois, je dis, l'État a été... suiveur, mais moi dans les entretiens que j'ai eus, c'est plutôt en mode, si vous voulez, j'ai aussi fait des rencontres au ministère du Logement et à Bercy, on comprend où est le blocage, quoi, en fait. Donc, pour le dire clairement, au ministère du Logement, ils sont prêts à faire beaucoup plus que ce qui est en vigueur, mais c'est à Bercy où on dit non, non. Et en fait, c'était M. Macron, en tant que ministre, qui était complètement favorable à ces économies numériques et de plateformes. Aujourd'hui, vous imaginez que c'est encore pire. Et donc, en fait, au ministère du Logement, si vous voulez, ils sont prêts, hein. J'ai rencontré des gens qui, avec des documents, disent « Nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin, mais on ne peut pas. » Donc là aussi, une forme de défiance entre élus locaux et ces ministères-là qui fait que les élus locaux se débrouillent entre eux, parce qu'il faut bien répondre aux citoyens. Et je dis quand même, sur ces villes, il y a certaines villes qui ont montré qu'elles faisaient quelque chose, mais en fait, elles n'ont fait qu'appliquer des règles existantes. Hein. Et tout petit point que je n'ai pas mentionné, sur les grandes villes que l'on étudie, elles se sont mises en réseau, Paris et Barcelone, sont en fait ont développé un réseau contre Airbnb, en tout cas pour réguler Airbnb au niveau européen, et des mouvements sociaux aussi ont fait ça. Mais merci pour vos questions.